Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle « Sécurité opérationnelle » et dont l'auteur est Alexandre Fernandez Toro. Bonjour.
Bonjour.
Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Loïs Samin.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Xavier Mertens.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Alexandre, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a poussé justement peut-être à écrire ce livre ?
Bien, écoute, moi j'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps comme programmeur, on disait pas développeur encore. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de COBOL, 9 ans de COBOL. Ensuite, j'ai été responsable de production dans un environnement mainframe. Ensuite j'ai rejoint un cabinet de conseil pendant 10 ans, cabinet de conseil en sécurité de l'information, donc chez Hervé Schoer. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait au début des audits plutôt techniques. Alors je faisais pas du tout de TI parce que j'avais pas le niveau technique de faire des tests d'intrusion. Par contre, je faisais des audits de configuration et donc c'était plutôt technique au début. Et puis, comme j'avais fait de la prod dans une vie précédente, eh bien progressivement, je me suis mis à faire de l'organisationnel. Puis comme je vieillissais, je devenais mauvais en technique de toute façon. Donc je disais que je prenais de la hauteur et donc je me suis mis à faire de l'organisationnel. Voilà. Donc pendant 5 ans chez Hervé, ensuite j'ai fait de l'organisationnel et surtout de l'ISO 27001, donc ce qui m'a valu effectivement beaucoup d'interventions en public et d'écrire un livre là-dessus. Voilà, et puis au bout de 5 ans quand même, je me suis dit que j'étais assez déconnecté de la réalité quotidienne des gens qui exploitent la sécurité. Et je suis devenu, il y a à peu près un peu plus de 5 ans maintenant, RSSI, voilà, chez un industriel. Et voilà, donc maintenant je suis servi parce que pour le coup, je suis confronté à des problématiques techniques d'un côté et puis à des problématiques, on va dire, organisationnelles de l'autre. Et puis voilà, il n'y a pas de jaloux, comme ça je suis confronté aux deux. Et du coup, je suis passé du consultant ou de l'auditeur qui disait que les clients étaient mauvais, qui faisaient mal leur travail, à être le gars mauvais qui fait mal son travail et qui se fait victimer par ses auditeurs. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire le livre ? En fait, c'est que quand on cherche de la documentation sur comment configurer tel ou tel élément technique, on la trouve et on trouve des documentations très, très, très précises et ça donne vraiment réponse aux questions techniques qu'on se pose. Ensuite, si on se pose des questions sur le management, ça, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc, on a plein de livres sur comment manager la sécurité, comment faire du management ceci, du management cela. Et en fait, moi, ce qui me manquait quand j'ai pris mes fonctions de RSSI, c'est, on a un problème concret. Je sais pas, il faut déployer les correctifs de sécurité ou il faut faire en sorte que les gens soient plus admin de leur poste ou il faut faire la chasse au mot de passe trivio. Des choses extrêmement simples. Et j'avais pas de RSSI pour les bêtes. Je veux dire, il y avait pas de comment attraper le problème. Parce que le problème technique, la culture technique, grosso modo, je l'ai, encore heureux. Par contre, ce qui me manquait, c'était le comment attraper la chose. Et les 1000 petits problèmes qui, en soi, unitairement, sont pas très méchants, mais en fait, cumulés, font que les projets sécu mettent du mal à avancer. Je les ai résolus progressivement et puis en échangeant avec d'autres RSSI. Et du coup, voilà, comme j'aime bien écrire, voilà, j'ai compilé un peu cette expérience dans ce livre.
Et il faut dire que c'est un livre extrêmement pratique. D'ailleurs, c'est marqué en dessous, un conseil pratique pour sécuriser le SI, avec 21 annexes qui contiennent des politiques de sécurité, des fiches d'incidents prêtes à copier-coller. Mais il n'y a aucun outil qui est cité dans le livre, à part John the Ripper, que tu recommandes au RSSI pour tester la robustesse des mots de passe de leurs victimes. Mais ça doit être à cause de ton passé.
C'est à cause de mon passé, mais l'idée, c'est pas de faire de publicité pour un éditeur ou un autre. Hein. Le but, c'est pas ça. Parce que le problème, c'est pas tant d'acheter telle boîte ou telle boîte ou tel service ou tel service. Le problème, c'est face à ce projet sécurité, quelles sont les difficultés qui vont se présenter et quelles sont les stratégies qui vont marcher ou celles où je me suis cassé la figure qui ne marchent pas. Et ça, ce n'est pas une question d'éditeur ou de consultant.
Alors, pour toi, qui devrait lire ce livre? Alors, on l'a bien compris, les RSSI.
Ah, je sais pas, faut que je regarde la quatrième de couverture, je sais pas ce que j'ai marqué dessus. Non, grosso modo, clairement, les RSSI qui prennent leurs fonctions. En tout cas, ce livre a été pris par écrit par un RSSI qui prenait ses fonctions. Donc, clairement, ce livre est indiqué pour ces personnes-là. Et il est indiqué justement à toute personne, enfin, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, qui a un projet de sécurité qui entre dans le cadre des différents chapitres qui sont là et qui veut avoir mon point de vue, qui est évidemment un point de vue et qui est certainement pas la vérité absolue, largement pas. Mais voilà, ça permet d'avoir un témoignage de voilà ce projet-là, voilà comment on peut le prendre, voilà les trucs qui marchent, voilà les difficultés qui se présentent et voilà comment on peut s'en sortir.
Moi, je confirme que j'ai commencé mes fonctions de RSSI il n'y a pas longtemps, donc je suis vraiment le profil du jeune RSSI. Et honnêtement, en fait, ce bouquin-là, c'est Alexandre qui me l'a fait découvrir. Voilà. Et en fait, ça me sert vraiment de un peu le RSSI à côté de moi. Quand j'ai un problème, je lis un chapitre, etc., sur un sujet. Et en fait, c'est vraiment super utile. Il y a tellement de sujets divers et variés que c'est vraiment, comme on dit, en fait, c'est opérationnel et il n'y a pas juste tous les grands blabla qu'on lit.
Je vois dans le sommaire un chapitre qui m'intéresse particulièrement, c'est « Sortons vraiment un jour de la zone d'humiliation ».
Oui.
Alors, ton retour d'expérience là-dessus, est-ce que tu peux nous partager?
Absolument, bien sûr.
Peut-être dans un premier temps, Alexandre, tu peux nous expliquer justement les différentes zones.
Oui. En fait, je crois que j'ai donné trois zones, mais en fait, je me rappelle que de la première. Pourtant, c'est moi qui les ai écrites, hein, mais bon. Effectivement, moi, ce que je constate, c'est que, et je parle pas que pour moi, je parle vraiment la plupart des SI que j'ai vus quand j'étais consultant. La grande majorité des SI, à mon avis, c'est ma façon de dire que la sécurité est un échec. La grande majorité des SI sont dans ce que moi j'appelle la zone d'humiliation, c'est-à-dire cet état du SI où si on se fait pirater, on n'a aucune excuse. Parce qu'on a exposé des systèmes qui sont pas du tout à jour, parce qu'on a mis des mots de passe triviaux, pour tout ce genre de choses. Voilà, donc la zone d'humiliation, c'est la zone, l'espace du SI où ni le RSSI, ni le DG, ni le DSI n'ont la moindre excuse si on se fait pirater. Voilà. Et donc, finalement, la mission du RSSI, c'est de faire sortir le SI de cette zone d'humiliation. Donc, effectivement, je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde dans le bouquin, mais je donne la zone de progrès, il me semble. La zone suivante, c'est la zone de progrès. Et puis ensuite, c'est la zone de sécurité maîtrisée ou quelque chose comme ça. Bien. Mais en fait, ce que je constate, effectivement, c'est que finalement, en écrivant le livre, c'est que je me suis rendu compte que finalement, au fond, honnêtement, est-ce qu'on sort un jour de la zone d'humiliation? Parce que l'idée, c'est que la zone d'humiliation, c'est pas je fais mon travail de RSSI et on était dans la zone d'humiliation et ensuite on en sort. En fait, la sécurité des SI, c'est la sécurité applicative, c'est les authentifications, c'est au niveau système, c'est l'architecture réseau, c'est tous ces aspects-là. Et finalement, on est humilié dans chacun de ces aspects-là. Donc, le travail du RSSI, c'est progressivement, domaine par domaine, sortir progressivement de la zone d'humiliation. Les projets, ils avancent. Chacun à leur rythme, donc on va avoir des équipes réseau qui jouent le jeu, qui sont compétentes, etc., etc., et qui vont faire le nécessaire pour réarchitecturer le réseau, etc. On va avoir d'autres équipes un peu plus poussives. Bon, bref. Donc, on va pas sortir tout de suite de la zone d'humiliation. On va sortir de la zone d'humiliation sur certains domaines. On va s'approcher de la sortie dans d'autres. Et en fait, en théorie, l'idée, c'est de sortir dans chacun de ces aspects. Et là, on pourra dire, ça y est, j'ai fait mon travail de RSSI. Le problème, c'est que la vraie vie, c'est qu'en fait, je ne suis pas convaincu qu'on en sorte vraiment un jour de cette zone d'humiliation. Parce que finalement, pour sortir, pour travailler sur ces domaines-là, il faut mobiliser les équipes. Et les équipes, les différentes équipes, applicatives, systèmes, réseaux, architectes, etc. C'est les métiers même. Ces gens-là, on peut les mobiliser en mode projet, et si on arrive à être convaincant, etc. Mais voilà, on peut les mobiliser un certain temps, mais après, c'est bon, il n'y a pas que la sécurité dans la vie, ils ont leur métier, ils ont d'autres priorités. Donc, ils vont relâcher tôt ou tard la pression sur la sécurité. Après, les SI, ils sont de plus en plus complexes, techniquement et architecturalement. On les fait interagir de plus en plus. Il faut être bon en base de données, il faut être bon en système, il faut être bon en virtualisation, il faut être bon en application, en HTTP, etc. Enfin, voilà. Donc forcément, on ne va pas être bon partout, on va laisser des trous. Ensuite, dès qu'on cesse de surveiller, eh bien, on régresse. Hein. Même quand on est sorti de la zone d'humiliation, eh bien, par exemple, j'ai fait un effort énorme pour faire en sorte que mon endpoint protection ou mes antivirus sur les postes de travail soient à jour, etc. Oui, sauf que si on ne surveille pas de très près, peu à peu, il y aura de moins en moins de postes protégés pour un tas de bonnes raisons. Voilà, bref. Et puis un jour, il y aura bien un intégrateur qui se pointera, qui intégrera toute une partie, un système de téléphonie ou un système stratégique, et qui, tout à fait à votre insu, et du coup, vous découvrirez qu'il y a des mots de passe laissés par défaut, des installations par défaut, etc. Tout ça pour dire que, à mon avis, malheureusement, on n'en sort vraiment pas de la zone d'humiliation. Le travail du RSSI, c'est de faire en sorte d'essayer d'en sortir, d'améliorer la maturité, mais je dois avouer que c'est quand même difficile.
La sécurité est un échec.
Je voulais pas le dire à ta place,
non,
mais
pas forcément.
C'est ma vision des choses, mon interprétation de ta phrase, c'est ça, effectivement, oui.
Alors, moi, je ne comprends pas parce qu'en lisant ce livre, j'ai appris que justement, grâce à la norme 27001, te trouvais dans un process où tu améliorais sans cesse la sécurité. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ce paradoxe ?
Alors, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on part de très bas. C'est pour ça tu peux t'améliorer facilement.
Ça, c'est pas faux. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles je parle de 27001. Et pour être tout à fait transparent, la première raison, c'est que mon éditeur m'a dit « Écoute, tu veux me faire ton bouquin sur la sécurité au père ?» Parce que je voulais l'écrire. Je tenais à l'écrire. Et mon éditeur de l'époque n'était pas convaincu. Bon, bref. Et il m'a dit, écoute, puisque tu es connu sur la 27001, parle-moi de 27001. Donc, il a bien fallu que je colle de la 27001 dans la sécurité opérationnelle. Bon, la raison plus sérieuse, c'est que c'est vrai que une des clés, et ça, pour le coup, c'est pas pour rire, j'en suis convaincu de ce que je dis, une des clés de la sécurité opérationnelle, c'est de maintenir les mesures de sécurité techniques et organisationnelles, maintenir ces mesures de sécurité à un niveau satisfaisant dans la durée. Et ça, c'est absolument pas trivial. Et pour maintenir ce niveau de sécurité, ce qui marche très bien quand même, c'est mettre en place une organisation et mettre en place certaines contraintes, certains bâtons. Et c'est vrai que la 27001 est une bonne réponse, en ce sens-là, je suis convaincu que c'est une bonne réponse, dans la mesure où ça oblige... Si on l'applique correctement, ça oblige effectivement à formaliser ce qu'on fait, ça oblige à contrôler ce qu'on fait, ça oblige surtout, quand on a de mauvais indicateurs, quand on a des incidents, quand on a des auditeurs qui viennent vous taper sur les doigts, ça oblige à faire des choses et à justifier si on n'a rien fait, pourquoi on n'a rien fait. Cette contrainte-là, elle contribue vraiment à maintenir le niveau de sécurité et à s'améliorer. Ça, c'est vrai.
Jean-Philippe Gaulier, tu voulais intervenir.
Alors, je voulais rebondir à la fois sur les différents chapitres du livre, qui sont nombreux, sauf erreur de ma part. Il y en a 26, hors annexe, où on voit, et tu l'as dit tout à l'heure, le RSSI doit être bon en système, en réseau, en application, en droit, en RH pour la sensibilisation, la formation, etc. Est-ce que finalement tu ne synthétises pas et tu ne symbolises pas le mouton à cinq pattes que chaque informaticien devrait être, parce que il doit connaître tellement de choses qu'effectivement c'est peut-être difficile de sortir de cette zone d'humiliation, ou alors c'est le surinformaticien?
Alors, en fait, mon avis, c'est que, d'abord, ce que tu viens de dire, ça fait que le métier de RSSI est un métier passionnant. Et qu'on soit petit RSSI de terrain, ce qui est mon cas, ou qu'on soit un RSSI groupe, même si la fonction est la même, le nom du titre est le même, mais finalement, c'est des métiers un peu différents. Dans les deux cas, qu'on soit RSSI de terrain ou RSSI... d'une structure plus grande, c'est passionnant parce qu'on est obligé justement d'être très très terre à terre, très proche du terrain et à la fois avoir une vue prospective, stratégique, etc., etc. Comment on se débrouille pour le faire? Eh ben, en ayant une culture générale, c'est clair que moi, par exemple, de par mon âge, honnêtement, je suis pas un pro. Par exemple, quand il s'agit de faire du web SSO, SAML, les entêtes HTTP, tous ces trucs-là, il a fallu que je m'accroche. Et surtout, le travail du RSSI, c'est de s'entourer de ne pas se contenter de son ignorance, mais d'apprendre, de se remettre en question tout le temps. Mais surtout de s'entourer de gens compétents. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire prendre les bons consultants ou les bons collaborateurs. Et ils sont très complémentaires. J'ai remarqué quelque chose. Il y a des gens qui sont très, très orientés formalisation, rigueur, etc. Donc ça va être très pratique. Par exemple, pour sécuriser une partie du SI importante, on sait qu'on va se prendre un test d'intrusion, on sait que c'est une infrastructure sensible, et il faut quelqu'un de rigoureux, méticuleux, qui vérifie que vraiment, est-ce que vraiment il n'y a plus que le 15-21 qui passe, est-ce que les utilisateurs derrière de la base de données n'ont que des droits en écriture, vérifie, est-ce le prestataire, t'es sûr qu'il a fait son boulot, vérifie quand même que le prestataire a fait son boulot, tiens, il n'a pas fait son boulot, etc. Voilà, donc il y a des gens qui sont très bons à cet exercice. Et puis, il y a des gens, bien au contraire, qui vont dire « Non, non, mais écoute, moi, par contre, ce que je peux te faire, c'est que je te monte un POC, etc. » J'ai regardé avec Wireshark que l'authentification avec SAML se passe comme ça. C'est pour ça que notre appliance ne marche pas, etc., etc. Voilà. Moi, mon travail, c'est de savoir m'entourer de ces deux personnes, de ces deux profils. Voilà. Arrêtez d'envoyer des messages dans tous les sens, ça me distrait.
Non, mais on se disait qu'il faudrait peut-être préciser que 15-21, c'est le port TCP par défaut d'Oracle, quoi. C'est peut-être pas évident pour tous les auditeurs.
D'accord, autant pour moi.
Mais c'est vrai que dans le livre, tu fais le grand écart quand même, parce que d'un côté, tu recommandes d'utiliser la norme ISO 27000 pour les analyses de risque, etc. Puis à un moment, tu dis, oui, et pour les postes sensibles industriels, il faut désactiver le service serveur, ça limite la surface d'attaque.
Nicolas, on me demande les deux, donc il faut bien que je fasse les deux, je suis obligé. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant comme métier.
Non, mais d'un autre côté, c'est bien si ça balaye à la fois la partie politique de sécurité, puis à la fois les spécifications techniques, les standards de sécurité opérationnelle, c'est bien.
Par rapport à ton passé de consultant et ton poste actuel de RSSI, est-ce que tu trouves que l'écoute est là, que ce soit chez les opérationnels, chez les métiers ou alors chez tes pairs, hein, est-ce que tu as l'impression d'avoir un vrai retour, un vrai écho, que ce soit à travers ton livre, tu remercies tes pairs au début, en introduction.
Ah oui, clairement.
Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui bougent? Tu nous as dit que ça fait une vingtaine d'années que tu fais le métier. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Est-ce que tu as vu des changements? Ou est-ce que finalement, tout comme dans 27001, c'est une boucle qui se répète?
Alors, si on regarde d'un point de vue purement fondamental, alors c'est clair que je dois énormément à mes collègues. C'est pas pour leur faire une politesse, mais c'est parce que ils se pointent dans mon bureau, ils me posent des questions, je comprends rien à ce qu'ils me demandent. Je suis obligé de, enfin pas toujours heureusement, mais souvent ils sont en plein dans leur projet, dans une technique très 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 spécifique. Ils me posent des questions, faut que je réponde. Donc c'est fort. Et du coup, ça m'oblige à me mobiliser, et du coup, ça m'oblige à m'améliorer. Donc clairement, je leur dois beaucoup. Ça c'est une chose. Alors pour ce qui est de l'évolution dans le temps, moi ce que j'ai constaté, là je vais faire mon vieux, c'est plus une respiration, hein. C'est-à-dire que à un moment donné, on prône la centralisation à outrance, les mainframes, après on fait les PC, après on revient, on fait de la virtualisation, ensuite on oriente, on réorganise tout. Ah, je me rappelle de l'époque où les développeurs, quand j'étais programmeur, finalement, quand la prod marchait pas, je faisais un bout de prod. Ensuite, on m'a appris que le cycle en V et que la séparation prod et développement, c'était très important, c'était sacré, fallait pas mélanger les choses. Ça pendant une dizaine d'années. Maintenant, avec le DevOps, la cloison saute à nouveau. Donc, moi, je sens que c'est une respiration. Il y a des gens qui le vivent bien et les gens qui ne le vivent pas bien. Moi, je pars de la base que quand on est RSSI ou même quand on est informaticien, faut partir de la base que tu changes complètement ton vocabulaire et tu acceptes de changer complètement tout ton vocabulaire et toute ta forme de pensée tous les 5 ans. Bon, voilà, ce n'est pas un problème pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup.
C'est vrai que quand même, il y a énormément de modes et d'opinions dans le monde de la sécurité informatique, enfin dans l'informatique en général, quoi. À un moment, on t'explique que Ruby, c'est fabuleux. Finalement, aujourd'hui, les seuls trucs qui ont survécu, c'est Ruby on Rails et Metasploit. Je pense qu'il n'y a pas de nouveaux développements qui se font en Ruby. Enfin, maintenant, c'est tout JavaScript.
Alors, pour revenir à ton livre, le chapitre sur les mots de passe est particulièrement intéressant parce que tu expliques que changer de mot de passe régulièrement n'est pas nécessairement une bonne idée. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors ça dépend des cas, mais effectivement, globalement, j'ai beaucoup de mal avec les auditeurs quand on arrive à ce point-là, parce que tous les référentiels qui se respectent disent les mots de passe doivent changer tous les 30 jours ou tous les 90 jours, etc., etc. Bon, déjà, je sais pas, mais les mots de passe des services, moi, les comptes de services, j'ai pas très envie de les changer tous les 90 jours. Et puis après, la question est contre qui se protège-t-on ? C'est-à-dire, on change un mot de passe régulièrement. L'idée reçue, c'est parce que si quelqu'un connaît mon mot de passe, je peux me faire usurper mon compte. Alors, OK, je vais faire un mot de passe de bonne qualité. Par exemple, 8 caractères, majuscules, minuscules, vous me voyez venir, chiffres et lettres. Donc, bonjour 1, par exemple. Voilà un mot de passe sûr, bonjour 1. Voilà. Et puis, dans 90 jours, je ferai bonjour 2. Et puis, dans 90 jours, je ferai bonjour 3. Ça tient pas 30 secondes à n'importe quel outil de cassage de mot de passe. Et est-ce que c'est pas mieux en fait d'avoir un mot de passe qui change pas, qui est complexe, qui est long, qui est difficile à deviner ? Parce qu'au fond, on se protège contre qui ? Contre ses camarades ? Contre quelqu'un qui aurait un temps de process suffisant, il faut résister à un temps de process suffisant pour que si le mot de passe tombe, je l'ai déjà changé, donc il faudrait reprocesser le... Je sais pas, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le risque, c'est quelqu'un s'introduit dans la base dans le système d'information, récupère la base des empreintes, et voilà. Donc, voilà, les post-it. On me dit, les post-it, Alexandre, il faut pas mettre de post-it. Bah oui, mais trouver des mots de passe, mettre des mots de passe simples qui changent tous les 90 jours, c'est mettre d'énormes post-it sur Internet tôt ou tard. Enfin, c'est ça un peu ce que j'essaye de vendre en interne. Mais je le dis pas trop fort parce que, en fait, mes auditeurs n'aiment pas du tout ce discours. Alors, il y a certains environnements où clairement je refuse de changer les mots de passe. Je suis désolé. Et ça, j'assume, tant pis.
Enfin, aujourd'hui, tu as quand même des solutions qui te permettent déjà de faire un coffre-fort de mots de passe local et qui, avec une combinaison de touches, vont saisir le mot de passe à ta place, ce qui est quand même pratique. Et tu as même des solutions de coffre-fort de mots de passe réseau qui vont se connecter à ta place et changent le mot de passe une fois que tu t'es déconnecté. Donc, tu as quand même des trucs un peu automatisés maintenant qui marchent plutôt
bien. Il y a les bastions d'authentification, par exemple, pour accéder à un parc de systèmes. Ça marche très, très bien, effectivement. Et c'est clair, ça permet justement de mettre des mots de passe de très grandes difficultés qui ne changent pas beaucoup et pourtant qui permettent d'avoir un contrôle très fin des accès et un contrôle très fin des accès. Effectivement, les solutions sont nombreuses, heureusement. Mais il y a des systèmes historique, pardon, juste je termine, il y a des systèmes historiques qui permettent pas d'installer ce genre d'outils.
Tu vas être content, Alexandre, parce qu'en fait, justement, le NIST en fait vient de sortir un nouveau papier, enfin, en draft, justement, sur les mots de passe. Et en fait, ils viennent totalement dans ton sens. Tu pourras lire, on te l'enverra, mais en gros, là, ils disent que faut pas changer les mots de passe sans raison, qu'il faut plus faire tous ces trucs compliqués. Donc, c'est en train vraiment de changer la mentalité, quoi.
Je me ferai un plaisir de montrer ça à mes auditeurs préférés.
Toujours sur les mots de passe et sur les coffres-forts numériques dont on vient de parler. Est-ce que finalement, ce chapitre en 2016 ne se résume pas à arrêter d'utiliser des mots de passe, arrêter de les forger, utiliser des outils qui sont dédiés pour ça, voire centraliser dans le cadre d'une entreprise au niveau du SI, que toute DSI se dépêche de créer des systèmes de SSO qui évitent de demander des mots de passe et des renouvellements à gogo.
L'idée, moi, ce que je constate, c'est pour les accès système, les accès d'administration, ce que je vois régulièrement, c'est des bastions d'authentification, etc., d'un côté. Et pour les utilisateurs et les applications, effectivement, une solution, par exemple, de double authente, par exemple, d'authentification à deux facteurs, ça marche très bien, couplé à un web SSO, qui permet effectivement pour les applications qui entrent dans ce domaine et bien justement de n'avoir qu'une seule OTANT. Le problème du WebSSO, c'est que sur le papier, c'est super, et dans la pratique, c'est aussi super, mais par contre, si vous, j'ai un chapitre là-dessus, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges concrets là-dessus, mais en mise en œuvre, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même plein de petits pièges, genre le WebSSO, c'est bien, sauf que le WebSSO, c'est quand même très basé sur des cookies. Si j'ai des applications qui tournent sur Chrome, par exemple, je m'authentifie sur Chrome, et puis c'est bon. J'ai un cookie sur Chrome, toutes les applis qui se lancent sur Chrome et qui sont dans ce WebSSO ne nécessiteront pas une deuxième OTANT ou une troisième OTANT. Sauf que si j'ai des applications historiques qui marchent que sur IE6 ou IE8 ou IE je sais pas quoi, eh ben va falloir se réauthentifier. Et quid des tablettes que je distribue au personnel qui bouge, comment il va s'authentifier, est-ce que l'APK va savoir gérer les cookies, etc. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment le WebSSO, c'est la seule chose que j'ai réussi à vendre comme opportunité en matière de sécurité. J'ai réussi à vendre le WebSSO comme ça va faciliter la vie des gens. Mais attention, c'est quand même difficile à mettre en œuvre.
Je rebondis là justement sur ce que tu viens de nous dire à propos d'applications web qui seraient compliantes uniquement avec IE6, IE8. Donc là, on parle d'obsolescence, clairement. L'obsolescence, initialement, n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de DSI, encore une fois. Oui. Mais dès qu'on en arrive à cette période d'obsolescence, ça devient un problème de sécurité.
Oui.
Et là, tu nous expliques donc que toi, en tant que RSSI, tu dois gérer des problèmes qui, à la base, ne sont certainement pas les tiens, puisqu'on parle de renouvellement de parc, de mise à jour d'application et de décommissionnement.
C'est vrai, mais il n'empêche que ces applications historiques... Je parle des applications historiques ou des nouvelles applications qui gèrent pas forcément le WebSSO. Eh bien, il faut quand même que je sois dans la course pour mettre en garde et faire en sorte qu'elles soient quand même intégrées au SSO. Mais je suis d'accord, hein, c'est un problème de DSI, c'est pas un problème de sécurité. Mais c'est ce qui fait que le métier est passionnant. C'est que on se dit, ah chouette, entre le moment où on voit un exposé commercial sur le boîtier machin qui fait du WebSSO, qui fait du SAML avec un ID provider, etc., X ou Y, et le moment où on fait un POC qui marche pas trop mal, et le moment où on met en prod, et quand on s'apprête à mettre en prod, on tombe sur toutes ces difficultés et on se rend compte que les problèmes ne sont pas que des problèmes de sécurité, mais des problèmes de DSI, de SI absolument. Eh bien, certes, ce n'est pas simple, mais c'est ce qui fait que je m'amuse comme un fou tous les jours quand je vais travailler.
Mais est-ce que tu n'as pas une certaine frustration de temps en temps ? Enfin, moi, j'ai fait l'inverse de ton parcours. J'étais pas RSSI, j'étais employé. Donc, je travaillais sur des projets à long terme chez mon employeur. Et plusieurs fois, j'ai eu le cas où le projet, à un moment donné, s'est complètement arrêté, s'est annulé pour une raison X, Y ou Z. Et à ce moment-là, je sentais une frustration parce que, voilà, tout s'arrêtait et on repartait de zéro ou on repartait sur un autre projet. Maintenant, je fais de la consultance, j'ai changé complètement mon fusil d'épaule, je fais mon projet, je donne le deliverable, donc les résultats, rapports, peu importe, le script, que sais-je. Que ça soit mis en production ou pas chez le client à la fin, entre guillemets, je n'en sais rien et pour parler de manière un peu crue, je m'en fous. Moi, je sais que j'ai fait mon boulot, j'ai bien fait mon boulot et je n'ai plus cette notion de frustration.
Absolument. Alors, effectivement, quand j'étais consultant, ce que tu dis, je le reconnais complètement. Quand j'étais consultant, j'avais tendance à dire, quand je sentais que le client vivait mal le projet, etc., je me disais, bon, après tout, c'est pas mon problème, mais le problème, il est chez le client, etc. Moi, j'ai fait mon travail, etc. Je suis bien d'accord. J'aurais préféré que ça marche, mais bon, si ça marche pas, tant pis. Alors, en tant que RSSI, forcément, je me sens plus concerned, comme on dit. Donc, l'idée, moi, ce que j'essaye de faire, à mon échelle, c'est de ne pas me lancer dans des projets que je sais ne pas pouvoir mener. Exemple, à une époque, on voulait me pousser vers un projet d'IAM. Hein, et moi, je ne sais pas pourquoi je ne le sentais pas, parce que je voyais beaucoup de présentations dans les conférences, comment réussir son projet d'IAM, comment j'ai réussi mon projet d'IAM, mais quand on grattait un peu, on se rendait compte que le projet d'IAM, Eh ben, en fait, le RSSI qu'il présentait, c'était le deuxième RSSI du projet. Donc, le premier avait sauté à cause du projet IAM, que les délais avaient plus que doublé et les budgets, je vous raconte pas, et que le périmètre avait été divisé par 3. Voilà. Eh bien, clairement, moi, quand on m'a parlé d'IAM, j'ai dit, bah, écoutez, on va peut-être faire un bout de IM, hein, mais pas d'IAM en tout cas, ça c'est sûr. Et puis voilà. Donc j'essaye de me lancer dans des projets que je peux réaliser. Et je sais pas, est-ce que j'ai connu des échecs comme ça, de grands échecs depuis que j'ai RSSI, j'ai pas l'impression. Il y a des choses clairement que j'ai laissé un peu de côté. Mais
genre DLP par exemple qui va bien.
Ah bah j'ai même pas essayé, j'ai même pas essayé. Non, ça c'est non, j'ai même pas essayé.
Dans ton livre, j'étais assez surpris parce que tu parles très subrepticement d'un mal qui atteint tous les SI actuellement, si je puis dire. Nous avons quelques pages sur l'externalisation dans le cloud.
Oui.
Donc une petite dizaine de pages. Et on le sait, aujourd'hui, 90% des nouveaux logiciels sont des logiciels dans le cloud. Alors on arrive encore à avoir cloud privé et cloud public. Mais en tant que RSSI, tu dois être un petit peu concerné par tout ce qui est Patriot Act, gestion des données personnelles, oui, GDPR oui. Et autres choses du genre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision là-dessus ?
Alors, donc sur le cloud, forcément, j'ai une expérience dessus et puis mes confrères en ont aussi, donc j'ai l'occasion d'échanger. Mon impression avec le cloud, c'est que moi, je l'ai vu arriver. Je parle de mon expérience, hein, je donne pas une vérité absolue, je parle de mon expérience. Moi, je l'ai vu arriver le cloud d'abord dans les PME. Qui voulaient se centrer sur leurs activités métiers à valeur ajoutée quoi et balancer tout le reste voilà et puis ce mouvement a rejoint maintenant tout le CAC maintenant est sur le cloud de toute façon et du coup moi ce que je constate c'est que souvent à l'origine en tout cas le RSSI courait après le cloud c'est-à-dire que on décidait pour des raisons économiques de passer au cloud. On se recentrait sur les activités métiers et tout le reste passait au cloud. On en avait marre de toute façon de gérer des infrastructures et puis on en avait marre des diktats de la DSI. Donc forcément, voilà, un peu comment ça arrivait. Et on pense à la sécurité après. Comment je vis ça ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est que une fois qu'on passe un service dans le cloud, en termes de disponibilité de service, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. C'est infiniment mieux que quand on gère soi-même. Voilà, et ça, voilà. Ensuite, c'est clair que les utilisateurs sont enchantés parce que l'accessibilité au service, eh bien, elle peut être faite depuis n'importe quel navigateur. Alors justement, moi, j'ai réussi à limiter pour certaines applis sensibles l'accès au service. Voilà. Le cloud, moi, j'essaye de le transformer. Ce qui se passe, c'est qu'après, on rattrape finalement la sécurité rattrape le cloud, finit par rattraper le cloud, et ça, à se rendre compte que finalement, le cloud, c'est aussi une opportunité. Je pense notamment au SSO. Les solutions du cloud sont facilement intégrables, justement, dans un SSO. Donc, pour peu que tu aies mis en amont une double entente qui te permet d'avoir un peu plus d'assurance sur la personne qui est au bout du service, au bout du navigateur. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que ça, les solutions du cloud sont en général assez bonnes pour ça. Il y a de plus en plus d'API. On est plus dans on va dans le sens des API. Donc il y a plein de services. Je vois des sociétés du CAC qui montent des centres d'excellence, des spécialistes dédié aux solutions du cloud, dont le but est d'exploiter les API fournies par les fournisseurs de cloud, et entre autres choses pour faire des services de sécurité, contrôler les accès aux objets plus finement que ce ne l'est fait avant. Donc, à l'origine, tu m'aurais posé la question il y a un an, j'aurais dit c'est un mal nécessaire, le cloud. Aujourd'hui, je dirais, et c'est pas une formule commerciale, je le pense vraiment, que c'est une opportunité. Alors évidemment, se pose la question de la souveraineté, hein, puisque les données, elles partent, tu ne sais pas où. Donc tu te doutes que je me suis posé la question. Mais au fond, Est-ce que des données avec un AD qui n'est pas forcément à jour, des bases de données où tu ne maîtrises pas forcément les admins qui entrent et qui sortent, est-ce que vraiment, vraiment, les données que je gère en interne sont tellement plus en sécurité que dans le cloud? Je ne suis pas convaincu que la réponse soit très nette. Et clairement, effectivement, c'est un risque. Et par exemple, un jour, j'ai demandé à un gros fournisseur, un gros poids lourd du cloud, j'ai demandé qu'il m'explique un peu à deux fournisseurs, j'ai demandé ça, différents du cloud, deux poids lourds. Quels sont, parce que comme je suis très engagé 27001, je contrôle mes fournisseurs, et j'ai demandé à des fournisseurs, dites-moi, quelles sont vos pratiques en matière de sécurité? Il y en a un qui m'a dit, pas de problème, voici les documents qui décrivent nos mesures de sécurité. Et en gros, j'avais 300 pages à lire, 200 pages à lire, de blabla sécu, voilà. Et l'autre fournisseur m'a dit, pas de problème, je vous envoie ma certification ISAE 3402, type 2. Donc, en gros, c'est le rapport généré par des Big Four en général, le rapport qui décrit toutes les mesures de sécurité, comment ils ont testé, que vraiment c'est bien. Bon, le rapport faisait 300 pages. Comment voulez-vous que moi, RSSI, face à un GAFA, je puis juger de la pertinence de ces rapports? Alors là, je te le concède, là-dessus, j'ai pas de réponse.
Surtout que l'ISAE 3402, il sert en général au commissaire aux comptes, et c'est pas vraiment de la sécurité qu'il y a dedans, et en plus, les tirages sont aléatoires sur les tests.
Tout à fait. Alors, les commissaires aux comptes te reprendraient et diraient ce n'est pas du tirage aléatoire, c'est de l'échantillonnage normé. Mais bon, au fond, on est bien d'accord, on parle de la même chose.
Je crois que tu as un mot sur les commissaires aux comptes dans ton livre,
non,
d'ailleurs.
Non, c'est pas moi qui ai un mot, c'est un RSSI qui, dans un moment de excédé, avait dit effectivement une phrase assez méchante que je ne répéterai pas. Tu la répètes si tu veux, mais...
Non, on est dans la bienveillance.
On est dans la bienveillance, mais voilà. Non, ce qui se passe, c'est que ça, c'est vrai que quand le cas des commissaires aux comptes est intéressant, et je fais attention à ce que je dis parce que dans 15 jours, je suis audité. Non, c'est important parce que quand on est RSSI et qu'on est dans les mains dans le cambouis, et on sait qu'on est bon dans certains domaines, qu'on est très mauvais dans d'autres, voilà, comme tout le monde, et arrive un jeune homme d'une trentaine d'années, bien habillé, bien élevé, et qui vous demande des preuves sur... Et ils sont très orientés, gestion des droits, etc. On le vit très mal parce qu'ils sont intraitables, absolument intraitables. Et ils vous donnent des cartons rouges si vous n'apportez pas les preuves qu'ils vous demandent. Et ils demandent les preuves, hein, c'est pas... on le vit très mal la première année, très très mal. Mais au fond, avec le recul, je me rends compte que, au fond, en matière de... Alors, pas en matière de sécu. Eux, leur truc, ce qu'ils appellent sécurité, c'est les droits d'accès aux applications, le droit d'accès aux infrastructures. Hein, les droits d'accès aux infrastructures. Voilà. La sécurité, pour eux, ça se limite quand même essentiellement à ça. Mais mine de rien, chaque fois que je fais des revues de droits, les gens me répondent, et me répondent rapidement, parce que dans l'entête du message que j'envoie aux gens, je dis « audit SOX ». Pour l'audit SOX, merci de me confirmer tel droit, tel droit, tel droit. Et quand ils me disent que telle personne est sortie, je leur dis « audit SOX, merci de supprimer ces comptes et de m'apporter la preuve qu'ils ont été supprimés ». Eh bien, si je n'avais pas la pression des auditeurs SOX, honnêtement, SOX ou commissaire aux comptes, hein, je ne suis pas convaincu qu'on me répondrait avec autant de diligence. Donc, je suis très partagé, quoi. J'ai un rapport... non pas d'amour-haine, n'exagérons rien, mais certainement pas d'amour en tout cas. Mais en tout cas, ils sont nécessaires. Je reconnais que pour un des aspects de la sécu, ils sont nécessaires.
Alors juste en précision...
C'est juste préciser que la SOX, c'est la loi Sarbanes-Oxley.
Pardonnez-moi, voilà, oui, tout à fait.
Et c'est pareil avec les audits de l'ANSSI, non? Quand ils viennent, tout le monde a un petit soulier et répond au quart de tour.
Ouais, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, on parle de la Bourse de New York et la possibilité de se faire décoter. Les enjeux sont différents. Je ne sais pas s'ils sont moins ou plus importants, mais ils sont différents. Vladimir, je crois que tu avais une question.
Oui, j'ai une petite question, parce qu'en fait, le sujet a été un tout petit peu abordé à plusieurs moments. C'est, est-ce que dans ton livre, tu abordes un problème récurrent pour les RSSI, les budgets?
Ah, Écoute, je crois que j'en parle pas du tout dans mon livre parce que j'ai pas de bons conseils à donner.
C'est parce que le RSSI n'a pas de budget. Hein.
J'ai une chance inouïe. Alors, en fait, voilà. Oui, bah, tu me donnes la réponse, en fait. D'abord, je suis issu de la culture Hervé Schauer, qui est « Si t'es bon en sécu, t'as pas besoin d'argent, tu fais toi-même. » Voilà. Et c'est ce que j'ai prôné pendant longtemps. Du coup, j'ai dépensé très peu pendant longtemps. Du coup, je voyais tous mes collègues avancer énormément dans leurs projets parce qu'ils avaient du budget. Et moi, comme finalement, j'avais pas lutté pour avoir du budget, bah, j'avais pas de moyens pour faire les trucs. Donc maintenant, si je lutte un peu plus quand même pour... Et c'est marrant, maintenant que j'ai du budget, je fais des choses bien parce que j'arrive à faire venir des gens compétents pour faire des trucs bien. Donc, en fait, c'est très important. Après, c'est vrai que le RSSI, c'est un peu un... j'ai un très bon budget des autres, en fait. C'est-à-dire que j'arrive assez bien à squatter le budget du réseau pour tout ce qui est dispositif de sécurité réseau, des infrastructures pour d'autres. Enfin, finalement, je fais passer la sécu dans le budget des autres. Donc ça, c'est pas mal. Et puis surtout, c'est qu'on vit en ce moment une espèce de, entre le règlement général de la protection des données et la loi de programmation militaire et toute une ribambelle de petites règlements, enfin, petites, de grosses réglementations sécuritaires, plus le fait que les gens comprennent que comme on migre toute la société vers le numérique, ça serait bien, si on a confiance en la société, ben, ça serait bien de faire confiance à la société du numérique. Eh bien, tout ça, ça fait que le contexte est plutôt propice à avoir du budget sans trop se battre. Mais peut-être suis-je moi-même dans une bulle très positive, très favorable. Donc du coup, bah, tout ça pour te dire que j'ai rien à dire d'intelligent sur le sujet. Tu vois, je suis capable de parler 10 minutes sur un truc que j'ai rien à dire.
Tu as été consultant bah, sur voilà. Chez Hervé, c'est pour ça.
Alors, je ne l'ai pas vu dans le livre, peut-être ça m'a échappé. Tout ce qui est qualité du développement, cycle de vie, hein, le fameux SDLC, et donc, oui. Des logiciels sans bug ou alors corrigés avant mise en production. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quelle est ta vision là-dessus?
Je sais pas, en fait, parce que j'ai pas eu de retour. Personnellement, c'est pas un domaine d'excellence pour moi, donc je me voyais mal écrire là-dessus. J'ai pas su non plus solliciter mes confrères sur ce sujet-là. Je suis convaincu que c'est un sujet super important, surtout à l'heure du DevOps où on change complètement la façon de développer. Et voilà. Et donc effectivement, c'est certainement ça sera certainement pas dans l'édition 3, mais peut-être dans l'édition 4. Mais non, je n'ai rien d'intelligent à te dire là-dessus.
Mais par contre, entre la première et la deuxième édition, tu as ajouté quelques chapitres, et dont un qui est consacré au big data, appliqué à la sécurité.
Oui, enfin, quelques pages, 2-3 pages, oui. Absolument.
Non, mais tu as des choses à dire là-dessus ou pas? Parce que ça...
J'ai une chose à dire là-dessus, en fait, pour le big data. Disons que moi, mon impression, c'est qu'il y a, on va dire, si on fait grosso modo, il y a la génération historique, il y a trois, on va dire, moi je vois trois générations dans la gestion des journaux. La première génération, c'est les scripts dans tous les sens pour tirer des choses. Et ça marche très bien, mais c'est très typé, c'est quand même très limité. Et clairement, aujourd'hui, je pense que c'est un peu... voilà, c'est un peu limité. Ensuite, il y a eu les CIEM, etc. Et aujourd'hui, on nous vend beaucoup le big data. Moi, ce que je vois dans le big data, par rapport à ce que j'ai échangé avec d'autres et ce que je commence à tester en interne, c'est que ce qui m'intéresse dans le big data, dans le big data pour la sécurité, c'est de pouvoir mélanger... faire le lien entre des données de type infrastructure, firewall, proxy, HTTP, etc., etc., et des données applicatives et des journaux applicatifs pas du tout conçus pour être mis en relation ensemble. Cette voie-là me paraît très intéressante. On s'en sert déjà de cette fonctionnalité pour les développements, pour comprendre que la nouvelle version de tel firmware fait que sur tel type de terminal ça marche plus, machin, etc. Je pense qu'il y a pas mal d'avenir pour cette raison-là. Faire le lien entre le monde applicatif et les événements applicatifs et les événements système. Voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le big data là-dessus à ce jour. par rapport aux témoignages que j'ai pu avoir concrets de RSSI. Après, si tu regardes dans les conférences, tout le monde en fait et t'as raté ta vie si tu ne fais pas du big data. Mais dans la vraie vie, moi, j'en vois pas tant que ça, finalement, en sécu du big data dans les sociétés normales.
Oui, certains diraient que c'est comme le sexe chez les ados, quoi. Tout le monde pense que les autres en font.
Mais... Ouais, c'est exactement ça.
Oui, je voulais savoir si tu avais des projets concrets.
Dans ce sens.
Bon, il y a aussi un autre point que tu n'abordes pas dans les freins à la sécurité, parce qu'il y a un chapitre entier consacré aux freins à la sécurité.
Oui.
C'est le problème de l'incompétence, quand même.
Oui, là, j'aurais dû y penser, effectivement. C'est vrai. C'est vrai.
On peut appeler ça autrement. On peut appeler les problèmes de recrutement ou les choses comme ça. Mais est-ce que tu penses que le niveau baisse toi qui commences à avoir beaucoup d'expérience.
Alors, je ne sais pas si le niveau monte ou baisse. Ce que je constate, pour le coup, je te dis comment je le sens. Ce que je constate, c'est que j'ai face à moi des bases de données de plus en plus complexes, des systèmes de virtualisation de plus en plus complexes, des systèmes d'exploitation qui, eux, sont pas de plus en plus complexes, mais qu'il faut maîtriser quand même. Voilà, des annuaires, du réseau, pareil, enfin bref. Une multitude de disciplines qui nécessitent une réelle expertise. Et il n'y a pas de secret pour sécuriser, il faut être expert. Et donc, j'ai besoin d'experts absolument partout. Et je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les équipes en interne pour avoir des experts, et je n'ai pas les moyens d'en acheter. Donc clairement, la difficulté aujourd'hui, l'incompétence plus que l'incompétence, alors des gens compétents et incompétents, il y en a partout. Mon problème, c'est la compétence. Le A, c'est-à-dire absence de. C'est-à-dire que on cherche des compétences, des gens compétents, et on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce qu'ils sont tous pris, parce qu'ils sont chers ou parce que j'ai pas de budget. Pour moi, le problème est là. Et du coup, on se retrouve effectivement avec j'ai échangé souvent avec des confrères. Et le problème, c'est que voilà, je veux sécuriser telle chose ou je veux améliorer telle chose, mais j'ai pas les gens compétents pour le faire. Ça, c'est un problème. En ce moment, le marché est complètement en tension et c'est un problème chronique. C'est vrai.
J'ai remarqué, enfin, moi j'ai que la première édition de ton bouquin, donc je sais pas si t'en parles dans la deuxième édition, mais par exemple, on voit vraiment ce qui est en train d'apparaître avec le règlement général des données personnelles, c'est en gros le travail du CIL qui va être de plus en plus important.
Oui.
Pour le RSSI, pour les données personnelles. Est-ce que justement tu as prévu d'en parler, de comment se préparer à ça qui va être 2018, mais qui va être assez complexe?
C'est le DPO, c'est pas le CIL, là, si on veut être précis.
Oui, ce sera le DPO, bien sûr.
Ce sera le DPO, voilà.
Data Alors, Fischer.
Absolument. Alors, j'ai pas du tout prévu. Alors, pour le coup, je pense pas que ce soit un sujet pour. Enfin, je sais pas, on verra, mais en tout cas, j'ai pas prévu du tout d'en parler. En revanche, moi, ce que j'ai constaté sur ce sujet, c'est que quand je parle à des juristes, le projet de mise en conformité est un problème juridique. Donc, et quand ils te font une proposition commerciale, finalement, il n'y a que du juridique et que de la rédaction de papier. Hein. Quand je vais voir des éditeurs de bases de données que je ne citerai pas, ils me disent « Oh, mais mon bon monsieur, il faut absolument crypter toutes vos données. Et ça coûte pas cher. Ça, voilà, exactement. Voilà. Chiffrer toutes vos données. Et donc, ça vous verrez. Et bon, ça coûte une fortune, etc. » Évidemment, à mon avis, c'est entre les deux. Et en fait, moi, je suis beaucoup plus à l'aise quand j'ai affaire plutôt à des consultants. Les consultants, ben, ils me mettent une dose de juridique, parce qu'il y a une dose de juridique, une dose de gratte-papier, parce qu'il y a du gratte-papier, et une dose de technique, mais, alors ça dépend des consultants, avec plus ou moins de discernement. Voilà. Donc, moi, mon approche, ça va être plutôt ça, c'est de trouver un intermédiaire. Par exemple, c'est hors de question de chiffrer les bases de données. Enfin, c'est pas marqué dans le règlement qu'il faut chiffrer les bases de données. Il faut protéger les données. Voilà. Comptez sur moi pour mettre en avant la démarche 27001 pour justifier que j'ai de bonnes pratiques en sécurité et que je suis conforme au règlement intérieur de protection des données. Voilà.
Une autre chose qui est peut-être abordée, mais ça ne m'est pas apparu directement, en tout cas, tu es un homme de réseau, hein, si on regarde ton profil LinkedIn, tu as plus de 500 connexions, tu as été consultant, tous les intervenants ce soir te connaissent de près ou de loin. Est-ce que, justement, le réseau et peut-être les événements de sécurité, on a invité plusieurs associations à l'antenne déjà pour, pour parler de tout ce milieu, de tout ce monde. Est-ce que c'est quelque chose à tes yeux qui est important ou est-ce que finalement le RSSI aujourd'hui il peut se passer de ça?
Tu veux dire, est-ce qu'il manque un chapitre sur les meilleures conférences de sécurité?
Alors,
les meilleurs goodies.
J'ai volontairement éludé cette question dans le livre. Alors c'est très amusant parce que je fréquente pas les mêmes cercles depuis que je fais de la sécurité. Effectivement, moi j'étais plutôt un assidu de l'OSIR, hein, voilà. Et effectivement, bon, je suis pas technique, mais je sais que les consultants techniques font beaucoup de CTF, il y a énormément, et c'est passionnant. J'écoute tous vos podcasts où il y a des groupes de sécu qui échangent. Donc voilà, ça c'est le genre de cercle que je fréquentais. Bon, bah aujourd'hui, en tant que RSSI, je reconnais que tu m'as poussé à te répondre à la question, mais voilà, donc je te réponds. Hein. Moi, je fréquente le cercle et le CESIN, et c'est là que je rencontre les gens qui ont les mêmes problèmes que moi et qui en off me disent, écoute, là, je suis vraiment pas bon dans ce domaine-là, machin, etc. Voilà. Après, ça dépend de ce que tu fais de ces groupes, mais avec les deux derniers cercles que j'ai cités, moi, j'en suis très content.
Ouais, mais on peut
préciser. Je sais que ça fait rire beaucoup de monde. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que je le vis.
En fait, ça fait un peu cercle de thérapie alcoolique anonyme.
Non. Alors, honnêtement. Alors là, pour le coup, quand je vais aux assises, quand je vais au CESIN ou ailleurs, hein, parce que je vais pas casser ces choses-là, je prends toujours des notes, je fais toujours un rapport, et c'est un vrai outil de travail. Tu y vas comme tu veux, c'est-à-dire tu peux y aller pour picoler, hein, mais tu peux y aller aussi pour prendre des notes et picoler, tu vois. Moi, c'est ma démarche. Prendre des notes, discuter et picoler.
Voilà. Et on peut notifier que t'as quand même toujours par exemple, aux soirées du cercle, t'es un des seuls qui a pas de chemise costard, etc. Et tu viens naturellement comme tu
ça,
es.
C'est vrai.
Tu as gardé ton petit côté, voilà.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, Alexandre, tu es en train d'écrire un autre livre. Tu peux nous en dire deux mots?
Mais comment tu sais que je suis en train d'écrire un autre livre?
Les cercles que tu ne fréquentes pas qui parlent.
Ah, d'accord. En fait, effectivement, j'ai une mauvaise nouvelle et deux bonnes nouvelles. Je la fais à l'américaine. Hein. J'ai rare qu'on me fasse le coup, mais du coup, je le fais. Bon. OK. Alors, la mauvaise nouvelle, effectivement, c'est que il y a un livre qui est assez connu, qui est mon livre sur la 27001, qui s'appelle « Management de la sécurité de l'information ». Ce livre est épuisé depuis 2 ans, et on me tanne, mon éditeur me tanne, les gens me tannent, tout le monde me tanne pour que je fasse la V4 de ce livre. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas fini, et je ne suis pas prêt de l'avoir fini. Hein. Voilà, donc il me reste encore pas mal de mois de travail avant que ça sorte. J'y travaille et je vais le sortir, c'est promis. Encore quelques mois de patience, s'il vous plaît. La bonne nouvelle, effectivement, c'est que très très bientôt, dans les tout prochains jours, va sortir un livre sur la 27001 qui va s'appeler « Comprendre et mettre en œuvre la norme ISO 27001 » et qui en fait reprend la logique du bouquin duquel on parle maintenant, c'est-à-dire sécurité opérationnelle, c'est-à-dire je prends le référentiel 27001, article par article je l'explique et ensuite je donne des conseils concrets de mise en œuvre, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et surtout, à la fin, un tiers du livre, c'est des documents incontournables d'un SMSI, des procédures de gestion des tiers, des spécifications d'indicateurs, des exemples de rapports d'audit interne, des comptes rendus de revues de direction, des trucs où, si on n'a pas fait la 27001, si on est bon en système de management, c'est de la rigolade tout ça, mais si on est nouveau dans ce truc-là, eh ben on angoisse beaucoup. Bah, pour désangoisser, je mets tout en annexe. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que toutes ces annexes, je vais les mettre en ligne, je vais mettre les sources en ligne, donc il y a 22 documents que je vais mettre en ligne, les sources, et comme ça, librement, comme ça, tout le monde pourra se servir, pourra dire que c'est complètement nul ou que c'est génial, mais en tout cas, on pourra s'en servir, on pourra l'adapter, et le but, c'est que ça serve à quelque chose. Voilà, c'est l'annonce du soir.
Mais ça fait pas de la concurrence aux formations de ton ancien employeur, ça ?
Oh, pas du tout. Mon ancien employeur ne vend pas les documents. Et puis, je participe régulièrement aux formations de l'employeur.
Ah oui, je sais. Justement.
Sur la publication, alors justement, on dit que tu es un auteur prolifique, en tout cas qui aime écrire. Est-ce qu'on peut te demander, sans rentrer dans les détails intimes de la chose, est-ce que c'est rentable d'être auteur en sécurité informatique aujourd'hui ?
Alors, rentable économiquement ? Eh ben, écoutez, moi, j'ai rien à cacher. Hein. La première édition du livre Sécurité opérationnelle, elle a été tirée à 1000 exemplaires. Alors, vous voyez, on n'est pas en train de parler de Marc Lévy, quoi. Hein. 1000 exemplaires. Est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est pas un succès? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, 1000 exemplaires sont partis en un an. Ça m'a rapporté moins de 2000 euros. Donc, c'est clairement pas pour l'argent qu'on écrit, surtout quand on voit le temps que ça prend. Voilà. L'écriture, mais là je vous raconte ma vie intime, je ne sais pas si c'est très, très approprié. L'écriture, bah, c'est que pour moi j'adore ça, j'adore transmettre. J'aurais bien aimé écrire d'autres choses, mais chaque fois que je veux écrire des choses qui ne sont pas des choses techniques, des choses un peu plus romanesques, personne n'en veut. Par contre, tout le monde me parle de mes livres techniques. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, j'écris technique, tout le monde est content comme ça, voilà.
Et tu voudrais pas insérer justement des personnages un peu romanesques dans tes livres techniques ?
Je sais pas, il y a des chefs d'entreprise qui sont morts récemment dans certains livres.
Oui, absolument, je l'ai appris et je veux savoir qui c'est. Absolument. En fait, j'envisage effectivement de faire ce genre d'exercice, mais en même temps, vous savez, j'ai pas envie de divorcer. Donc déjà l'écriture me prend absolument quasiment tout mon temps libre. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas divorcé, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, tout ça pour dire que ça prend beaucoup de temps et soit j'écris de la technique, soit j'écris autre chose, mais je ne peux pas faire les deux. Quoi.
Enfin, je note quand même que...
Et comme j'ai des lecteurs côté bouquin, technique, et voilà, quoi, j'en profite. Ouais, pardon.
Oui, le RSSI, tu prends un exemple dans ton bouquin, s'appelle Julien Sorel quand même. Hein.
Voilà, oui, absolument.
Il y a quand même
du romanesque
dans Sécurité opérationnelle.
Et puis, voilà. J'ai quand même trouvé, parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure, hein, j'ai trouvé des versions du management de la sécurité de l'information à plus de 400 euros.
Oui.
Occasion et neuf. Donc finalement, il y a un vrai marché. Hein. Tu vaux de l'or.
Bah oui. Ben c'est pour ça que entre écrire un livre que personne ne lira et écrire un livre que tout le monde a envie, enfin tout le monde ah, carrément, mais enfin où il y a pas mal de gens en tout cas qui veulent le lire, bon ben voilà, autant écrire un livre technique au cas où je raconte pas toutes les profondes idées littéraires que j'ai, mais au moins les gens ils ont vraiment, écoute, les gens veulent savoir ce que je pense de la 27001 et comment je vois la 27001, on m'en parle beaucoup. Bon, ben voilà, je témoigne, je suis très content, j'adore ça. On va pas cracher sur la soupe, j'adore ça.
Bon, bien, Alexandre, je rappelle le titre de ton livre, Sécurité opérationnelle aux éditions Erol.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Est-ce qu'on peut te retrouver en quelque part sur Internet, Alexandre, ou est-ce que tu es juste dans les cercles au Cézin, je crois que tu as cité tout à l'heure.
Au Cézin et au Cercle, non. Ouais. Alors, en fait, moi j'ai un compte, moi je ne suis pas super, je ne suis pas si public que ça, moi j'ai un compte LinkedIn et j'ai un compte Twitter avec 20 personnes qui me suivent, un truc comme ça, oh, et un tweet. Voilà. voilà, c'est tout. Donc... Ah, j'ai dit une bêtise, là, je vous vois tous noter des trucs, là.
Ah oui, on cherche maintenant, là.
Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez, voilà, c'est comme ça qu'on peut me joindre.
Et donc, ton compte Twitter, c'est lequel ?
Ah bah, c'est super complexe. C'est Alexandre Fernandez Toro, ou un truc dans le genre. Enfin, tu cherches Alexandre Fernandez Toro sur Twitter, tu me trouves, quoi, hein, forcément.
Et Google, par contre, tu t'aimes pas. Hein. Quand tu cherches directement avec Google...
Ouais, bof, hein.
Ouais, tu trouves Hervé Schauer.
Ah, c'est ça.
Oui, quand on cherche Alexandre, on trouve Hervé en général, oui.
Très bien. Vladimir.
Oui.
C'est l'heure de la minute fail.
Allez, un petit fail pour la route. Alors, je rappelle le principe du fail, c'est de présenter un incident de sécurité passé en prenant un peu de recul avec humour, mais surtout pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et certains faits ont été modifiés. Alors ça se passe dans une petite DSI, un administrateur de solutions de sécurité se fait avoir par un rançon logiciel et ouvre la pièce jointe d'un mail plutôt bien écrit. Donc le rançon logiciel fait son travail, commence à chiffrer tout le poste, enfin tout le contenu du disque du poste, puis s'attaque au partage réseau. Et là, il trouve plusieurs partages réseau en écriture et chiffre tout. Et alors à votre avis, quel était le rôle de cet administrateur ? Bon, j'ai la réponse.
Il y a Jerry Lenas, non CQ.
Il était administrateur des solutions de sécurité, parmi lesquelles se trouvaient les disques montés en écriture, des gestionnaires des IPS et des firewalls. Fail. Gros fail.
Heureusement, il y avait du backup.
Heureusement, il y avait du backup, donc ils ont dû faire un restore. Ouais.
Bon, eh bien, sur ce, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.